Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Benjamin, comment ça va ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Bah écoute, je suis hyper content d'être là et tu vois, c'était un peu opportuniste. Tu vois, je croise Stéphane, il me dit « Ah, faut que tu appelles Benjamin, il est juste à côté cette semaine et tout ». Et me voilà ici, donc je suis hyper content, je suis hyper heureux d'être là. En plus, je t'ai pas dit, mais le Grand Bornand, j'allais tous les hivers en colonie de ski, tu vois. Donc j'ai l'impression de revenir un peu en enfance.
Bah, c'est cool, hein. De toute façon, faut aussi se remémorer ces petits passages d'enfance, ça fait du bien aussi.
Mais grave, ouais.
Dans la tête.
Bah, quand je suis arrivé dans la vallée en bas, là, j'ai tout de suite reconnu, bah, c'est ce tableau-là là, que tu as au-dessus de ta tête. J'ai tout de suite reconnu. J'ai fait, oh, mais ouais, je me souviens quand on arrivait en bus de Paris avec 50 gamins surexcités qui n'avaient qu'une seule envie, c'est qu'ils venaient de quitter leurs parents et qui n'avaient qu'une seule envie, c'était de chausser les skis. Forcément, ça me rappelle des choses. Il faut que je trouve le panneau d'ailleurs au Grand Bornand pour prendre une photo à côté et l'envoyer à mes potes. C'est mon petit challenge du jour quand je sortirai d'ici. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans la région ? Tu as toujours été... Tu es né à Annecy, c'est ça ?
Alors, effectivement, moi, je suis né à Annecy, mais j'ai toujours habité ici, au Grand Bornand. Donc, j'ai grandi ici, aux côtés de toute ma famille et mes potes.
Donc, on est vraiment chez toi, là, dans ton royaume.
Exactement, on est même à la maison. Donc là, on est chez ma maman. Après, moi, j'ai un autre chalet qui est un petit peu plus haut dans la vallée. Et ensuite, je vais emménager à Annecy d'ici 15 jours.
Trop cool. Donc, pas mal de mouvements dans ta vie. Tu viens de raconter ça. Moi, j'aime bien commencer par l'enfance. Et je te disais, il y a une question traditionnelle. Tous les athlètes qui sont basés sur ce podcast y ont droit. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, mon premier souvenir de sport, c'est pas forcément... pendant ma jeunesse ou mon enfance, c'est plus une étape de Coupe du Monde, donc ma première Coupe du Monde quand je suis rentré sur le circuit international. Donc en décembre 2011, c'était une course en Norvège à Souchon. Et lors de cette course, il y avait une énorme descente avec un virage gauche en bas de la descente. Et en fait, moi, j'ai pris totalement à l'extérieur et je suis tombé dans le virage. Et avec la vitesse, ça m'a projeté à l'extérieur du virage. Et là, il y avait plein de petits sapins. Du coup, j'ai fini dans un sapin et j'étais coincé dans le sapin. J'avais cassé mon bâton et tout. C'était pour repartir, c'était assez compliqué. Mais au final, ouais, c'était quand même un passage assez drôle.
Ouais. Donc, ta première expérience internationale en compétition, c'est tu la termines dans les sapins, quoi.
Exactement. C'est pas forcément la course rêvée, mais voilà, ça reste un énorme souvenir parce que derrière ça a déclenché sur un immense parcours et sans ça aussi, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend énormément aussi.
Voilà, bien sûr, bien sûr. Et puis ça donne un peu la niaque aussi de commencer par un échec, ça donne envie de se relever tout de suite et d'aller au front pour faire oublier ce mauvais souvenir, quoi.
Bah oui, exactement. Après, c'est pas forcément un mauvais souvenir parce que c'est mes débuts et j'étais là aussi pour apprendre comment se passait une course internationale. J'apprenais à découvrir aussi les autres athlètes, comment se déroulait une course, une Coupe du Monde et ainsi de suite. Donc en fait, j'étais encore dans un parcours d'apprentissage. Ouais. Donc ça reste quand même des très beaux souvenirs.
Puis comme on dit, hein, les échecs ou les erreurs ne sont que des apprentissages, quoi.
Si exactement.
Si on les voit de la bonne façon. Plus jeune, tu as fait d'autres sports. Tu vois, j'aimerais bien raconter ton histoire un petit peu avec tes mots, parce que je la trouve vraiment belle, vraiment inspirante. Je trouve que c'est une leçon d'espoir. Mais du coup, tu vas nous la raconter, mais j'aimerais savoir, le petit gamin, Benjamin, il était comment ? Il était turbulent, bon à l'école, très sportif. Comment on peut le décrire, le petit Benjamin ?
Alors, le petit Benjamin, c'était un enfant blond, les cheveux frisés, un peu bouboule, qui adorait pratiquer le sport. J'étais tout le temps dehors. L'école, c'était pas fait pour moi, j'aimais pas être enfermé. Quand je rentrais de l'école, il fallait faire les devoirs, j'allais tout de suite jouer dehors. Donc j'ai pratiqué du ski alpin de 5 ans à mes 10 ans. J'ai fait du ski de fond de mes 11 ans à mes 14 ans. Et j'ai pratiqué du foot de mes 5 ans à mes 17 ans. Et après, avec l'école, on faisait énormément de sport, hein, comme tout le monde au collège, du badminton, un peu de rugby, un peu d'athlétisme, un peu de tout. Et j'adorais faire... n'importe quel sport, j'adorais faire ça. Et si je pouvais même rater l'école ou ne pas faire les devoirs pour aller faire du sport, ça m'allait très bien.
Mais c'est marrant, mais j'ai l'impression que ça revient quand même beaucoup chez beaucoup d'athlètes de haut niveau, cette envie de sécher l'école, de faire l'école buissonnière et d'aller gambader et d'aller se dépenser, quoi. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Edgar Gros-Piron et Antoine Deneria. Et eux, ouais, c'était affolant, quoi. Ils tenaient pas en place à l'école, ça les saoulait comme pas possible et ils attendaient qu'une chose, c'était d'aller chausser les skis, d'aller faire des conneries, quoi. Tu te reconnais un peu quand tu parles justement à d'autres skieurs, c'est un peu aussi ce qui revient quand ils parlent de leur enfance ?
Oui, carrément. En fait, je connais pas beaucoup de sportifs de haut niveau qui étaient capables de rester assis 4 heures en classe et écouter le professeur pendant 4 heures d'affilée et être vraiment assidu dans ce travail, on va dire, d'écolier. Tous ceux que je connais, quasiment, ils pouvaient rester assis 2 heures, mais après, il fallait que ça bouge, quoi. Et en fait, on se retrouve un peu tous dans le même bateau et la même configuration de notre enfance. Ouais,
ouais, mais je peux le comprendre, ouais, tout à fait. Il y avait quand même des matières qui t'intéressaient ou sur lesquelles tu touchais un peu mieux ta bille ?
J'aimais beaucoup la physique, chimie et la géographie. C'était des matières un peu plus faciles, on va dire, et
Ouais, et un peu
plus. Ouais, mais c'était quand même, je sais pas, c'était tellement différent des autres matières que je trouvais qu'il y avait un parcours qui était ultra intéressant dans ces filières-là. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait pas mal. Ouais.
Et tu rêvais déjà un peu d'olympisme, de sport de haut niveau, de titres. C'était une voie qui était possible pour toi ?
Possible, non, parce que comme j'avais arrêté le ski à 14 ans, je voulais pas faire de. J'étais pas fait pour faire de la compétition à haut niveau à cet âge-là. Après, je pense que comme tout enfant, on rêve d'être footballeur ou d'être rugbyman, hein, suivant les régions. Mais après, non, moi, c'était déjà tracé hein, depuis l'âge de mes 14-15 ans. Je voulais travailler dans le bâtiment, être plombier, et du coup, je m'étais pas lancé vraiment dans le sport.
Ouais. C'est ça que tu avais prévu de faire, quoi ?
Ouais, exactement.
Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, le fait que ce soit manuel, que tu construises Qu'est-ce qui te plaît dans les métiers du bâtiment ?
Bah, c'est ça, en fait, c'est de construire des maisons ou des appartements, voire même des immeubles de ses propres mains, de savoir faire plein de choses avec ses mains. Et quand on voit la réussite qu'on peut apporter sur un chantier à la fin de la construction, tu te dis, ouais, toi, j'ai fait tout ça, c'est quand même cool, quoi.
Et c'est quelque chose que tu continues, bricoler un peu et tout ?
Alors, oui, je bricole encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant, forcément. Parce que maintenant, avec le sport de haut niveau, ça me prend quasiment tout mon temps. Mais après, oui, en famille, s'il faut faire des petites bricoles, je le fais avec plaisir.
Et tu te vois retaper plus tard des maisons et tout, un truc que tu te vois faire pour la retraite ou quoi ? Ou c'est quelque chose ?
C'est quelque chose qui est envisageable, oui, de refaire un appartement dans mon chalet. Peut-être que plus tard, je le ferai. Après, pour la famille ou des potes, suivant ce que c'est, oui, pourquoi pas.
Bon, moi, j'ai hâte de voir les petits projets. Moi aussi, j'aime bien tout ce qui est un peu immobilier. J'étais pas du tout bricoleur, mais mon père, il m'a jamais transmis ça. Donc, je sais pas d'ailleurs comment toi, tu y es venu. Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a transmis ou c'est en regardant ou c'était est-ce que tu avais une sorte de mentor, tu vois ? Mais moi, je suis en train de m'y mettre là petit à petit et en fait, plus je le fais, plus je me rends compte que ça me plaît, quoi, de construire des trucs.
Bah, moi, depuis tout petit, en fait, j'étais énormément avec mon oncle. Et mon oncle, c'est un peu le MacGyver du bâtiment. Il touche à tout. Il bricole énormément. Il sait tout faire. Okay. Et du coup, il m'a un peu transmis beaucoup de choses dans ce qu'il savait faire. Et on travaille encore énormément tous les deux pour nous se faire plaisir, pour la famille aussi. Et du coup, c'est ultra intéressant de travailler avec lui. Et moi, j'apprends encore, même maintenant... à faire énormément de choses avec lui.
C'est quoi le dernier truc que tu as fait pour la petite parenthèse.
Le dernier truc que j'ai fait pour lui, c'est une soudure sur des dents pour une moto faucheuse.
Ok, je crois voir.
Ouais, en fait, c'est une grande barre métallique qui est devant la moto faucheuse avec plusieurs dents. Et en fait, il a attrapé une pierre en fauchant dans un champ et du coup, la dent s'est cassée. J'ai ressoudé la dent sur la grande barre.
Ok. La soudure, c'est dangereux, non ? Faut faire gaffe, faut prendre des précautions, non ?
Ça dépend. En fait, si on soude le cuivre, on n'a pas besoin de lunettes spécifiques. Ouais. Après, si on commence à souder l'acier, ouais, faut des lunettes des verres très foncés, se protéger les yeux, sinon on peut se brûler la
rétine.
Ouais. La rétine, ouais.
Ouais, c'est ça que j'imaginais, effectivement, ouais. Ok, bah, hyper, hyper intéressant. Donc, tu te vois plus là-dedans. Et à quel âge t'as eu ton accident de scooter, du coup ?
J'ai eu mon accident en juillet 2006.
Juillet 2006, donc tu avais 17 ans, c'est ça ?
Exactement.
Tu peux le raconter ? Tu t'en souviens ou...
Totalement. Je me souviens de tout, de A à Z.
Ok. Et c'est marrant que tu le disais avec le sourire. Ça te laisse un souvenir d'une nouvelle vie, c'est quoi ?
Ouais, en fait, on peut dire exactement que j'ai eu deux vies, hein, parce que j'ai eu mon parcours avant l'accident et mon parcours après l'accident, donc... Forcément, sans cet accident, j'aurais pas ce parcours que j'ai eu.
Qu'est-ce qui aurait été différent, tu penses ? Tout ?
Déjà, je serais pas champion paralympique, je serais pas champion du monde, je serais pas en équipe de France, je serais peut-être à mon compte en plomberie et travailler encore dans le bâtiment. Donc, c'est sûr que c'est totalement différent. J'aurais peut-être beaucoup moins voyagé aussi. C'est énormément de changements, ouais.
Tu le vois comme, du coup, presque... Une aubaine a posteriori ou un signe du destin ?
Après, je ne sais pas si on peut dire que c'est un signe du destin parce que quand tu passes en situation de handicap, ton parcours, ta jeunesse peut être quand même chamboulée. Après, moi, j'ai su rebondir suite à l'accident pour justement me recréer un parcours, un changement de vie aussi. Et après, oui, maintenant, je me dis que sans cet accident, bah, j'aurais pas tout ce que j'ai à ce jour.
Mais est-ce que tu penses que c'est pas plutôt le fait que t'aies recommencé le sport et que t'aies rebondi plutôt que l'accident lui-même ?
Ah bah si, forcément, ouais. Ouais, ouais, c'est plus le fait que j'ai rebondi que maintenant j'accepte énormément le fait d'être en situation de handicap ou tout le parcours. Au début, c'était quand même compliqué.
Et c'est marrant parce que, tu vois, en parlant avec beaucoup d'athlètes paralympiques, tu vois, j'ai rencontré Marie-Amélie Le Fur, j'ai rencontré Mathieu Thomas, j'ai rencontré Marie Bauchet aussi. Tu vois, ils m'ont tous dit le fait de faire du sport, ça a été la plus belle opportunité dans ma vie. Ils m'ont tous dit ça. Ils ont tous été alignés pour dire ça. Comme quoi, c'était la meilleure façon en fait d'évoluer dans son handicap et de changer de vie, quoi, littéralement.
Bah, je pense que c'est même pas juste une question d'évoluer dans son handicap. Je pense que c'est évoluer même tout court, parce que on fait énormément de rencontres, on rencontre plein de personnes de cultures différentes, on voyage énormément, on rencontre énormément de monde aussi. Et du coup, je pense que le fait de rencontrer toutes ces personnes-là différentes et de discuter avec ces gens-là, on mûrit aussi mentalement et on a une autre vision du monde aussi. Et du coup, je pense que nous, personnellement, c'est une grande école de la vie, on peut dire.
Ouais, c'est clair. Tu pourrais raconter un petit peu l'enchaînement qui s'est passé entre ton accident et jusqu'au moment où tu as chaussé des skis de fond ?
Alors, bah, de toute façon, je vais reprendre mon histoire, hein, parce que moi,
vas-y,
comme ça...
Sors les petits papiers de l'école.
Donc, moi, j'ai eu un accident en juillet 2006 de moto. Donc, en fait...
T'étais moteur
enfin, t'étais... Non, en fait, c'était une petite moto 50 montée cross. C'était, vu comme j'étais en CAP de plomberie, ça me permettait d'aller, de me rendre à mon travail plus facilement, en fait. Donc, ce jour-là, je vais aller voir mon grand-père qui est avec ma mère et mon frère qui sont agriculteurs. Donc, on a un alpage au Maroli. Donc, c'est au niveau du col de la Colombière, donc à environ 15 km du village. Et il y a un pont qui est à 3 km du sommet du col. Et en fait, ils revenaient de faire la route, donc ils avaient gravillonné à l'entrée du pont. Et en fait, j'ai l'arrière qui a glissé. J'ai voulu me rattraper. Et en fait, ça a donné un coup de volant trop brusque. Et j'ai tapé contre les barrières. Le genou, il s'est mis dans la barrière. Ça a tourné. Donc, j'ai volé en l'air. J'ai atterri en poirier, donc la tête la première sur le goudron. Ça a cassé le casque. Le casque, il est passé par-dessus le pont. Du coup, j'ai continué à débarrouler sur la route. Je me suis retrouvé au milieu de la route. Du coup, il était 23h le soir. J'étais au milieu de la route. Et là, j'ai dit, faut quand même que je me tourne sur le trottoir, parce que s'il y a une voiture qui arrive, elle me voit pas et je me fais percuter, quoi. Du coup, je vais pour me lever et j'essaye de faire un pas et je vois que la jambe, elle lâche. Donc du coup, je retombe par terre. Bah, suite à ça, je dis je peux pas marcher, donc je vais sur le trottoir en rampant. Et je me mets sur le trottoir et à ce moment-là, bah, je vais appeler les pompiers et ma famille pour leur dire que j'ai eu un accident. Et je prends le téléphone et malheureusement, plus de batterie. Donc là, tu te dis que tu commences à être pas bien, quoi, parce qu'il est 23h... Il y a personne, tu es au milieu. Et en fait, il y a des immeubles juste en face de la route et du pont. Et c'était trois mecs qui étaient en train de fumer une clope sur leur balcon, qui ont vu l'accident. Donc, ils sont arrivés en courant pour venir me voir. Et en fait, la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'ils étaient secouristes en plage. Et du coup, ils ont appelé les pompiers. J'étais totalement conscient. Donc, ils ont appelé les pompiers. Je leur ai donné le numéro pour qu'ils appellent ma maman. Donc après, les pompiers sont venus, le SAMU est venu, ma maman aussi. Donc je suis descendu à l'hôpital. À l'hôpital, je me suis fait opérer. Donc ils m'ont mis deux vis dans le genou pour ressouder l'os. Et en fait, suite à l'opération, j'ai attrapé un staphylocoque doré, donc une maladie nosocomiale.
C'est une bactérie, enfin c'est une maladie nosocomiale que tu peux attraper dans les hôpitaux, c'est ça ?
La maladie nosocomiale, le staphylocoque doré, tu peux l'attraper aussi à l'extérieur si tu es en fracture ouverte. Donc moi, j'étais en fracture fermée, donc je l'ai attrapé au bloc opératoire pendant l'opération. Et du coup, le staphylocoque, il m'a tout rongé, le cartilage, le ménisque, l'articulation, un peu tout ce qui se trouve à l'intérieur du genou.
C'est vraiment une grosse bactérie très...
Ouais, c'est un microbe qui est vraiment dangereux, hein. On peut prendre des exemples comme le fils de Gérard Depardieu, qui lui avait attrapé un staphylocoque doré, il a fini par se faire amputer. Ouais. Et ça peut aller au-dessus, on peut même en mourir, ouais, si vraiment l'infection devient plus importante. Et du coup, le fait que le staphylocoque doré m'ait tout rongé dans le genou, eh ben, en fait, il était trop tard pour tout récupérer. Donc, j'ai mon genou qui s'est soudé en extension. Donc, j'ai comme une arthrodèse naturelle. En fait, je ne peux plus plier mon genou.
Ça s'est passé en combien de temps, tout ça, entre l'accident et...
4 jours.
4 jours.
Ouais, ça a été très, très rapide.
Et toi, tu le sens à ce moment-là?
Ouais, j'ai énormément de douleurs. Rien que le fait de bouger le drap sur ma jambe, ça me faisait mal. Donc c'était quand même très bizarre.
Sentais qu'il se passait un truc, quoi.
Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas net. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est malheureux, c'est que quand tu te retrouves à l'hôpital en plein mois d'août, en général, c'est les vacances. Et du coup, très peu de chirurgiens dans le service aussi. Et forcément, quand tu es 40 malades ou 40 patients et que tu n'as plus qu'un chirurgien, c'est compliqué de Bien suivre sûr. Tout le monde. Donc il y a un moment, faudrait peut-être remettre des moyens aussi dans les hôpitaux et payer un peu plus les infirmières et les aides-soignantes. Et je pense qu'on aura un service médical un peu mieux en France.
Il est déjà excellent, le service médical, quoi. Le seul problème, c'est qu'il tient uniquement sur le courage et la résilience des gens qui travaillent dedans, quoi, qui se déchirent et qui font le maximum, mais avec les moyens qu'ils peuvent.
C'est ça, en fait, le problème, c'est que on tire sur la corde. Les infirmières sont sous-payées par rapport à leur travail. Et les budgets sont faibles aussi et c'est malheureux parce que c'est tous des passionnés de leur métier. C'est de l'aide à la personne, donc c'est quand même très beau ce qu'ils font. Et on arrive dans un système où maintenant, tu as peur d'aller dans les hôpitaux parce que tu as peur de ressortir, entre guillemets, plus fracassé que quand tu rentres dedans.
Mais je peux comprendre, ouais. Et surtout avec ton histoire, ça fait un peu peur. Comment est-ce qu'ils te l'apprennent, les médecins, que tu ne pourras plus plier le genou?
Ils ne me l'annoncent pas tout de suite. Derrière, ils me l'annoncent... je fais 3 mois d'hôpital, du coup, derrière.
Parce qu'ils voient que le staphylocoque doré a fait des dégâts?
Non, ils ne le voient pas, en fait.
Pendant 4 jours, ils ne le voient pas?
Non, en fait, quand je me plaignais de mes douleurs, ils me disaient que j'étais une chochotte et que je faisais des manières. Donc, en fait, c'était ultra compliqué de se faire écouter. Donc, en fait, ils me laissaient comme ça, avec mes douleurs, un peu de morphine et puis ça passe, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, le staphylocoque doré, ils faisaient son travail, quoi. Donc en fait, j'étais pas écouté et donc ils ont laissé traîner pendant plus d'un mois. Donc ça a été l'enfer. Pour me changer les draps, tous les matins, on me mettait un masque sur la bouche et le nez avec un gaz hilarant pour que ça m'endorme tous les muscles, qu'il y ait 4 personnes qui puissent me lever, qui changent les draps et qui me remettent dans mon lit. Tellement que je souffrais, en fait. Et en fait, quand mon chirurgien de base est rentré de vacances et qu'il a vu que j'étais encore ici, il a dit, mais comment ça se fait que t'es encore ici? Là, tu devrais déjà marcher et être sur pied, quoi. Et je fais, non, ça fait plus d'un mois que je me plains de mes douleurs et tout. Donc le chirurgien, il a pris le dossier, il a ouvert mon dossier, il a dit, non, mais là, on va t'opérer en urgence, c'est pas normal. Et donc il me réopère d'urgence. Et pendant l'opération... j'étais tellement faible que j'ai fait une hémorragie interne, donc ils ont fait une transfusion sanguine. Et en fait, c'est là où ils m'ont annoncé que c'était trop tard et que je ne pourrais plus plier ma jambe. Donc il s'est arrivé quasiment 2-3 mois après. Ouais.
Et tu le savais que tu avais un staphylocoque doré avant? Ou c'est à ce moment-là que tu l'as appris?
Moi, je m'en doutais fortement parce que mon frère a eu un grave accident 5 ans avant le mien. Et du coup, lui aussi, il avait attrapé le staphylocoque doré. Donc les dégâts, je savais comment ça fonctionnait. Après, mon frère, il a tout récupéré. Maintenant, il est au top. Il a une très belle vie. Tout fonctionne très bien pour lui. Bon, pour moi aussi, hein, mais... mais ouais, je connaissais déjà le fonctionnement du staphylocoque doré. Donc pour moi, c'était sûr et certain que c'était ça.
Ouais, forcément, on n'écoute pas forcément un gamin qui a 17 ans et...
Pas du tout, même.
Qui fait pas d'études de médecine, tu vois, on l'écoute pas, ouais, c'est clair. Comment tu l'as vécu, tout ça?
Ça a été quand même compliqué parce que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport? Est-ce que je vais pouvoir continuer à pratiquer mon métier? Parce que j'étais en fin de CAP de plombier. Du coup, c'est énormément de changements dans ta tête. Donc, d'un côté, tu te dis, je peux peut-être faire plein de choses. Et de l'autre côté, tu te dis, je vais plus pouvoir faire grand-chose. Donc, en fait, c'est tellement un gros changement que tu le vis pas forcément très bien et familialement ma maman, ça a été compliqué pour elle parce que forcément c'est dur à accepter aussi pour une maman ou pour un papa de voir son enfant devenir en situation de handicap.
Bien sûr, ouais, je peux comprendre, ouais. Tu réagis comment du coup, toi? Moi, j'aurais pété un plomb, tu vois.
j'ai pas forcément pété un plomb. J'ai essayé de relativiser et de me dire non, je vais continuer la plomberie. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai continué mon CAP, j'ai eu mon CAP, j'ai continué à travailler dans le bâtiment derrière. Après, je me suis adapté en fonction de mon handicap. Mon patron m'a aidé aussi à me mettre sur des chantiers plutôt vraiment sympathiques. Du coup, je faisais vraiment ce qui me plaisait encore plus dans ce métier. Après, forcément, derrière, ça a été compliqué pour moi. Je finissais le travail le vendredi midi. Donc, en fait, je passais tous mes vendredis après-midi, samedi et mes dimanches à faire la fête pour évacuer, on va dire, cet handicap et le fait de ne plus pouvoir faire de sport. Et du coup, je passais mes journées à travailler et le soir à me mettre devant la télé. Sauf qu'à la télé, à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes et il n'y avait rien du tout, quoi. C'était même pas intéressant parce que moi, je ne regardais jamais la télé avant. J'étais tout le temps dehors à jouer. Du coup, en fait, c'est tellement un gros changement et un choc que du coup, j'évacuais par la fête.
La fête, c'est quoi ? C'est juste l'alcool, c'est les herbes de Provence, les pilules magiques. Après, si tu n'as pas le droit de le dire,
je ne le cache pas du tout. Hein. Il y a eu énormément d'alcool et un peu de prise de cannabis. Ouais.
C'était pour évacuer et...
Bah oui, pour oublier tout ça. Et parce qu'en fait, tu te retrouves dans une sensation de bien-être pour toi qui te permet d'oublier. Donc en fait, tu restes un peu là-dedans. Et sauf que ça dure une année, deux années, trois années et quatre ans. Quoi. Donc ça a été quatre ans, on va dire, un peu de galère. Ouais.
Bah, j'imagine, ouais, pas facile. Est-ce qu'il y a un déclic qui te donne envie de changer ? Est-ce que tu aurais pu rester comme ça longtemps, entre guillemets ? Tu vois, même des gamins qui sont, dans des filières techniques et qui n'ont pas forcément de handicap. Il y en a certains, le vendredi, le samedi, le dimanche, tu sais ce qu'ils font, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être... toi, ça a été quoi le déclic pour évoluer ?
Le déclic, c'est que mentalement, j'arrivais tellement à une saturation de tout ça, en fait, que j'ai dit, je me reconnais plus. C'était plus le Benjamin d'avant, qui était ultra souriant, ultra déconneur. Et là, tu te renfermes dans un truc qui est pas bon pour toi. Et du coup, en fait, du jour au lendemain, j'ai décidé de me remettre au sport. Mais vraiment du jour au lendemain. C'est décembre 2010, je me réveille à 8h du matin. Et là, je dis, je vais aller faire du ski. Du coup, j'ai appelé mon oncle, qui fait un peu de ski de fond pour le plaisir. Je lui ai demandé s'il pouvait me prêter son matos. Donc il m'a dit oui, pas de souci, tu viens le récupérer quand tu veux. Du coup, je suis allé le récupérer à 9h. Après, forcément, c'était compliqué. Je fais 1m70, il fait 1m90. Des skis trop grands, des bâtons trop grands, des chaussures trop grandes aussi. Mais en fait, j'avais tellement envie de refaire du sport qu'à 10h le matin, j'étais sur les pistes. Je suis parti, ça a été un enfer. J'avais plus de technique, forcément j'avais pas la caisse, je me retrouvais avec une jambe, j'ai dit mais je m'aventure dans quoi là, c'est hyper compliqué. Et en fait au bout d'une heure je suis rentré à la maison, mais vraiment fatigué quoi, parce que mal partout, musculairement, fatigué. Et en fait j'ai retrouvé cette sensation d'effort et d'adrénaline que ça m'a apporté, que ce soit musculairement, physiquement et même dans la tête, ça m'a tellement fait du bien. Que du coup, j'ai arrêté la grosse bringue tout de suite. J'ai arrêté de fumer tout de suite. Et j'y suis retourné le lendemain, puis le surlendemain, puis le sur-surlendemain, tous les jours. 15 jours après, j'ai acheté mes premiers skis. Et après, ça a déroulé.
C'est dingue cette histoire, ce déclic. Mais cette gamberger dans la tête de le petit Benjamin sportif qui aime se donner, qui aime faire du sport, il te manquait, tu vois, ça te gambergeait, ça te traînait dans la tête.
Bien sûr que ça m'a traîné dans la tête. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu deviens en situation de handicap, au bout d'un certain moment, on te fait passer devant une personne. Et cette personne, ça s'appelle un médecin conseil. Okay. Donc, je suis allé voir le médecin conseil. Donc, il était avec mon dossier médical. Je lui raconte mon parcours de vie, ce que je faisais, ce que je fais. Donc je travaillais en plomberie et il me demande pourquoi je voudrais être là. Je lui dis pour moi travailler en plomberie ça devient compliqué et j'aimerais faire du sport. Quel conseil, c'est votre rôle, quel conseil vous pouvez me donner ou m'orienter dans un projet ? Et au bout de 2 heures, le médecin conseil me dit, bah, le seul conseil que je peux te donner, c'est travaille pas trop, t'auras mal au dos. Donc déjà, tu prends une claque dans la gueule. Moi, je me suis levé en fait, de la table, j'étais vraiment en colère ce jour-là. Du coup, je l'ai attrapé et j'étais à 2 doigts de lui mettre un coup de poing, mais je ne l'ai pas fait. Parce que voilà, la violence ne résume à rien. Et du coup, moi, je lui ai dit, bah, si je peux me permettre, je vais vous donner un conseil, c'est de vous mettre au travail et vite. Et je suis parti, il m'a dit, monsieur Davian, on se reverra. J'ai dit, on se reverra jamais. Je ne suis jamais retourné le voir.
Mais il se souvient de ton nom.
Ah, je pense. Et en fait, j'étais tellement en colère aussi après cette annonce qu'il y a un moment, j'ai dit, bah, en fait, je suis livré à moi-même et je vais leur montrer à tous que je suis capable de faire quelque chose de ma vie et je vais leur montrer qu'un jour, bah, je serai dans les têtes de série.
Tu connais l'histoire un peu de Mathieu Thomas aussi ?
Non.
Qui fait du para-badminton. C'est marrant parce que je fais une passerelle avec son épisode à lui. Pareil, son histoire est hyper touchante. Mais il y a eu pareil un moment de rébellion contre un corps médical ou un corps d'autorité, tu vois, qui... Lui, on lui a dit qu'il pourrait plus jamais marcher, qu'il pourrait plus jamais faire du sport et tout, parce que le nerf de sa jambe était coupé entièrement, tu vois. Et il n'y a pas cru, quoi. Et toi, j'ai l'impression qu'il s'est passé un peu pareil. C'est qu'on t'a dit plus ou moins que tu pourras plus trop faire de sport et tu n'y as pas cru, quoi. Tu as refusé le statu quo et tu as refusé qu'on t'impose quelque chose.
Bah exactement, en fait. On me mettait tellement de barrières à me dire que travaille pas trop, tu auras mal au dos. Ouais, mais c'est bien gentil, j'ai 17 ans, je fais comment pour gagner ma vie ? Donc, et on ne m'orientait pas non plus dans le sport. Et du coup, j'ai dit, bah, vous allez voir, j'ai eu ce projet sportif direct derrière dans ma tête. Et j'ai dit, par contre, il faut que je trouve le sport. J'ai pratiqué le ski de fond de 11 à 14 ans. Donc forcément, j'étais passionné de ce sport. J'ai la chance d'habiter à 50 mètres des pistes de ski de fond. Donc je me suis dit, allez, go, je me lance dans ce projet. Après, j'ai eu la chance, donc dans mon village, une personne extraordinaire qui s'appelle Jean-Claude Blanc, qui tient une section handisport de ski alpin. Et du coup, je suis allé rencontrer Jean-Claude et Jean-Claude m'a ouvert énormément de portes. Donc, il m'a donné le numéro d'une dame qui s'occupait du comité départemental. Donc, il fallait que je téléphone à cette personne. J'appelle cette personne le lundi. Elle avait démissionné le vendredi. Donc, elle n'avait aucun contact à me donner. Sauf le numéro de portable personnel de l'entraîneur de l'équipe de France. Donc j'ai dit, oh bah c'est encore mieux. Et du coup, j'appelle l'entraîneur de l'équipe de France. Et du coup, bah forcément, un jeune qui peut arriver, potentiellement, ça les intéresse. Du coup, il m'a fait venir sur un stage qui se déroulait à la FECLA. C'était un stage que l'équipe de France faisait en préparation avant les championnats du monde, donc en 2011. Et l'entraîneur m'a dit, bah nous, écoute, il me regarde skier. Et au bout de 2 heures, il me dit, bah écoute... chez toi, il y a un gros potentiel, il y a moyen que tu progresses très bien et tu as un gros caractère. Donc, nous, on te fait rentrer en équipe de France. J'arrive, je suis ultra content, quoi. Je rentre en équipe de France. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah là, c'est bon, je suis dans mon projet, je vais me mettre à fond dans ce projet-là. Et un jour, je serai champion du monde et un jour, je vais gagner les Jeux. Et un jour, je vais être porte-drapeau. Mais par contre, pour en arriver là, il ne faudra pas griller les étapes et il faudra faire... petit à petit pour progresser et arriver au haut niveau. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis tout de suite mis dans ce projet à fond. Et je n'ai pas grillé les étapes. J'ai exactement procédé comme je voulais procéder. Et au final, derrière, bah, j'ai tout gagné. Donc c'est un parcours qui, oui, là, on en parle. Et ça me remet encore un peu des frissons parce que c'est loin maintenant. Je veux dire, mon début, c'était il y a 11 ans. Et d'arriver... à regarder ma vitrine, par exemple, je me dis, mais ouais, en fait, j'ai fait un parcours qui est incroyable.
Mais c'est le cas. C'est le cas. Mais tu vois ce qui est dingue, et je pense que le conseil qu'on peut donner peut-être aux plus jeunes, des jeunes en situation de handicap ou pas, tu vois, ce que je trouve, moi, hyper inspirant dans ton histoire, c'est que pendant 4 ans, tu te laisses aller et que le jour où tu commences à avoir un début de projet, tu demandes de l'aide et en fait, ça allait super vite. Les gens t'ont tendu la main et t'ont aidé. Et en fait, tout s'est aligné, tu vois, et tout s'est éclairci. Et je pense que la leçon un peu de ça, c'est que si tu y crois et que tu commences un peu à le faire, t'es pas à l'abri d'un gros coup de chance, tu vois. Toi, tu as eu le coup de chance d'avoir le numéro de téléphone de cet entraîneur, peut-être, tu vois, d'avoir aussi quelqu'un qui avait une section handisport pas très loin de chez toi. Mais à partir du moment où tu as saisi ta chance, tout s'est produit comme prévu, quoi. Et je pense pour les jeunes, c'est hyper.
Exactement. Hyper inspirant. Exactement. En fait, quand t'as ton projet en tête, en fait, faut te mettre à fond dans ce projet-là. Tu sais que forcément, il y aura des hauts et des bas. Hein. C'est compliqué aussi. J'avais jamais fait de ski roue. J'ai acheté mes ski roues sur Internet. J'ai reçu ça à la maison. Il y a pas de frein sur les ski roues. Je suis parti de chez moi. Je suis descendu. C'est une route qui descend pour aller jusqu'au village. Je savais pas du tout comment freiner. Je suis arrivé en bas du village vivant. J'ai fait bon, bah là, c'est bon, ça c'est fait. Et après, j'ai dit bon, maintenant faut remonter. Et j'ai jamais pratiqué de ski roue. Et en fait, tous les 500 mètres, je m'arrêtais pour boire un coup parce que je galérais. Mais en y allant tous les jours, en me disant mais ça va venir, continue dans ce mouvement là. Et au final, derrière, bah ça a mis quelques mois, mais. Ou quelques semaines, quelques mois. Et au final, bah, je voyais ma progression monter, ma technique monter, ma forme physique arriver. Je ne me mettais pas de barrière, en fait. À chaque fois, je me disais, tu vas y arriver. Tout ce que je me mettais dans la tête, c'était pour le réaliser.
Ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.